Bienvenue dans les matins de Radio Ndeke Luka. Auditeurs internautes, bonjour, soyez les bienvenus dans la partie échange des matins de Keloka de ce jour qui s'intéresse à l'égalité de genre en vue de l'autonomisation des femmes en République centrafricaine, aussi de mettre la lumière sur la journée internationale des droits de la femme, une occasion spéciale d'échange et de réflexion sur les acquis réalisés, des défis à réaliser et les opportunités de complémentarité entre les divers acteurs en partenariat avec la mission de conseil de l'Union européenne en République centrafricaine, EIAM-RCA. Nous tenons à vous rappeler que EIAM-RCA appuie les forces de sécurité intérieure, FSI, pour un renforcement de capacités organisationnelles et opérationnelles en accord avec la politique nationale de sécurité et la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité. Les activités de cette mission s'étendent aussi dans les domaines relatifs aux droits humains, l'égalité de genre et la participation massive des femmes dans les processus de paix, de sécurité, en coordination avec les partenaires nationaux et internationaux, parmi lesquels FSI et la société civile. C'est quoi exactement EIAM-RCA? Pourquoi cette table ronde aujourd'hui avec EIAM, avec cette mission? Les réponses avec nos invités dans un instant. Appelez-moi Bertie, Justine Amazoda à l'animation de cette table ronde. La partie technique est assurée par Anne-Alex Pounemati.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndeke Luka.
À l'écho des matins de Keloka, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour. Si vous nous écoutez, si vous nous rejoignez, c'est dans cette partie d'échange des matins de Keloka qui s'intéresse aujourd'hui à l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes en République centrafricaine. Nous rappelons que cette émission se réalise en ce moment en partenariat avec EIAM-RCA. Nos invités autour de cette table sont madame Godons Nirabikali, conseillère genre à EIAM-RCA. Bonjour.
Bonjour, madame.
Appelez-moi Bertie. Bonjour
Bertile.
Merci beaucoup. Nous avons lieutenant Huilidan Jennifer Point Focal Genre à la Gendarmerie Nationale. Bonjour.
Bonjour Bertie.
Merci. Nous avons commissaire de police Pierre Ngozo Daoulé, chef de service au commissariat de Crémary. Bonjour.
Je vous dis bonjour Bertie.
Nous avons madame Rosalie Kobobet, secrétaire générale de l'Association des femmes juristes de Centrafrique, FJC. Bonjour.
Bonjour Bertie.
Et enfin, commissaire de police Sakabarita Pascal Eurydis, directrice de police de l'air et des frontières. Bonjour.
Bonjour Bertie.
Désolée, on a failli vous oublier dans l'émission. Merci beaucoup. Bonjour. Si vous nous écoutez dans la table ronde des matins de Keloka avec cette mission EIAM en République centrafricaine, madame Godons Nirabikali, c'est quoi exactement cette mission dont nous parlons, avec qui nous faisons l'émission?
Merci Bertie. Comme vous l'avez introduit au début, la mission de conseil de l'Union européenne en République centrafricaine, EIAM-RCA, est une mission de l'Union européenne, comme le nom l'indique. Elle est établie en République centrafricaine depuis 2020. Elle est venue appuyer les forces de sécurité intérieure à l'invitation des autorités centrafricaines. EIAM a une mission sœur qui est UTM, mais pour la mission EIAM-RCA, le focus de son travail principalement, c'est d'appuyer et de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la gendarmerie nationale, la police centrafricaine, mais aussi les institutions connexes comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et les autres départements qui touchent à la sécurité intérieure du pays. Et les activités de la mission s'étendent plus loin que ça, plus loin que les institutions seulement sécuritaires, parce que la mission se préoccupe de la sécurité humaine. Et dans ce sens-là, tout le monde est impliqué, inclut la population centrafricaine, tout citoyen est concerné quand il s'agit de la sécurité humaine du pays. Les autres activités de la mission, je disais qu'elles s'étendent plus loin que ça, et couvrent aussi les domaines transversaux comme les droits humains et l'égalité de genre, la participation des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Et dans ce cadre-là, de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022, et c'est pourquoi la mission, c'est une occasion spéciale d'échange, mais aussi de réflexion.
Pour dire que ces activités se poursuivent jusqu'aujourd'hui.
Oui, les activités se poursuivent aujourd'hui. La journée du 8 mars, c'est dans ce cadre-là que la mission a décidé de saisir cette occasion-là de réflexion, mais aussi d'échange avec les interlocuteurs nationaux sur le sens large, avec toute la population, la société centrafricaine, de voir ou de réfléchir et voir où nous en sommes avec les acquis déjà réalisés, mais aussi les défis qui restent à relever et aussi de renouveler les opportunités de complémentarité entre les divers acteurs qui contribuent justement à cette égalité de femmes et à la promotion de la participation des femmes dans les différents secteurs.
Nous allons revenir pour d'autres questions. Vous avez éclairé, vous avez expliqué c'est quoi cette mission EUIAM-RCIA. Nous repartons vers nos invités avant de revenir vers vous, Madame Godos. Nous parlons de l'égalité de genre, mais que faudrait-il faire pour encourager le changement social pour que les filles et garçons bénéficient des mêmes considérations et opportunités de leur famille, de leur communauté, de la société civile, d'une manière générale, en République centrafricaine, Madame Jennifer?
Avant de répondre à votre question, je vais d'abord définir ce que c'est que le genre.
Oui.
Alors, le genre ne se réfère pas au caractère sexuel déterminant l'homme et la femme, mais plutôt aux rôles, aux attitudes et autres valeurs attribuées aux filles et aux garçons. Alors, si on parle de l'égalité entre la fille et le garçon, je pense que nous, en tant que FSI, nous travaillons à base des textes. Si tout le monde respecte et applique le code de la protection de l'enfant en République centrafricaine, plus précisément la loi numéro 20-014 du 15 juin 2020, qui stipule à son article 5, tous les enfants sont égaux en droit et en devoir. Là, on peut aussi faire recours aux 5 verbes du président fondateur Barthélemy Bouganda, à savoir nourrir, loger, vêtir, se soigner et éduquer. Et donc, si on met l'accent là-dessus, je crois les garçons et les filles bénéficieront de mêmes considérations, de mêmes opportunités de la part de leur famille, de la communauté, de la société. Il faut mettre l'accent beaucoup plus sur la sensibilisation auprès des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et aussi l'état de...
Pour dire que cette loi n'est pas respectée, cette loi qui parle de l'égalité entre les filles et garçons, à votre avis, cette loi n'est pas respectée, raison pour laquelle vous aimeriez beaucoup plus mettre l'accent, la lumière sur cette situation?
Oui, il faudrait que toute la population s'en serve de cela. Parce que si, en outre, par exemple, quelques difficultés auprès des filles, supposons la fille n'est pas traitée au même titre que son frère garçon. Je dirais pourquoi, parce que quand la fille va à l'école, la fille, une fois à l'école, elle revient à la maison et fait les tâches ménagères par rapport à son frère qui est là, qui fait la lecture, qui est là, qui peut
aller jouer au ballon,
regarder la télé, etc., regarder la télé, avoir le temps et l'opportunité de faire les études, d'apprendre après. Par contre, la fille, elle sera fatiguée après les travaux.
C'est Madame Rosalie qui veut réagir.
Oui, effectivement.
Vous voulez compléter ce qu'a dit.
Oui, c'est juste pour compléter déjà ce que Jennifer vient de dire. Je pense que si on se réfère à l'applicabilité de la loi, ça sera trop d'une manière institutionnelle. Commençons à des notions basiques. Par exemple, elle a touché à la fin de sa phrase. Revenons dans la famille. Commençons à regarder au niveau de l'éducation familiale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mœurs ou encore les traditions qui sont les bonnes à pouvoir appliquer dans la communauté, dans la société. Et je pense que dans ce sens-là, aujourd'hui, la question d'égalité entre garçons et filles est donnée l'opportunité pour que tous les deux aient les mêmes chances. Il faut revoir ça au niveau de la famille, au niveau de la communauté, au niveau de la tradition. En droit, on dit la coutume et la tradition sont les sources indirectes du droit. Mais c'est des bonnes coutumes, c'est des bonnes traditions qu'il faut appliquer. Et si on se rend compte que ces coutumes
abîme ces traditions qui ne sont pas bonnes, qui met une nette discrimination entre filles et garçons dans les tâches, dans les répartitions, dans les manières de traitement, dans l'éducation, etc. Je pense que le travail aujourd'hui, d'où la nécessité de la société civile aujourd'hui de pouvoir faire beaucoup plus la prévention qui est la sensibilisation communautaire auprès de la communauté.
Restons toujours avec vous. Si vous parlez des traditions, vous parlez de tout ça qui sont très bonnes aussi, surtout à la base. Mais que faut-il faire pour que les jeunes filles elles-mêmes puissent avoir confiance en soi et continuer leurs études après le primaire, le secondaire, sans se précipiter dans le mariage précoce?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de mécanismes, je dirais, il y a assez d'arsenal juridique qui existe déjà en République centrafricaine et qui protège déjà dans ce domaine-là. Mais le plus gros problème, d'abord, ça commence au niveau de sa vulgarisation. Peu des gens aujourd'hui, par exemple, la loi sur la protection de l'enfant, peu des gens aujourd'hui maîtrisent ce que c'est que cette loi. Est-ce que vraiment ça existe? Quel est le devoir de l'enfant? Quelle est son obligation? Etc. Maintenant, sur la question de la vulgarisation, maintenant, l'applicabilité de ces lois-là et les cadres qui vont avec les lois. Normalement, quand une loi est votée, il faut qu'il y ait des cadres normatif pour pouvoir permettre à cette loi d'être effective et applicable à toute la population. Mais vous voyez, aujourd'hui, les structures scolaires, par exemple, les structures scolaires sont insignifiantes. Et également, si on parle des structures scolaires, maintenant, les enseignants, la qualité de formation des enseignants, la qualité des matières qu'on donne aux élèves, etc. Mais maintenant, pour les filles, comment les conscientiser? Comment que ces filles peuvent avoir la conscience pour dire qu'effectivement, elles sont des personnes qui doivent contribuer au développement de leur pays. Tout résume tel que j'avais dit à la base. Si aujourd'hui dans la famille commence déjà à donner cette notion à la fille et au garçon pour dire que tous les deux sexes contribuent au développement du pays, à l'économie même du pays, et donc du coup, je pense que cette question va donner chance à ces filles-là de pouvoir comprendre effectivement leur rôle,
de toutes les manières,
leur place.
Il reste beaucoup de questions que nous allons revenir. Vous allez poser. Donnons d'abord parole à Madame Rita. Oui. C'est pour rebondir sur la question 4 que nous avons posée tout à l'heure à Madame Rosalie. Que faut-il faire pour que les filles puissent avoir confiance en soi-même pour continuer leurs études depuis le primaire jusqu'à secondaire sans être pressées dans le mariage précoce?
Oui, merci Bertie. Oui, il faut encourager les filles à poursuivre leurs études. Il faudra que les parents puissent alléger les travaux domestiques à la maison, attribuer aux filles, démontrer de l'intérêt pour leurs études de la fille et du garçon, et offrir des outils et les inviter à faire des formations et ateliers sur l'égalité de sexe. Montrer l'importance de la femme dans le développement, faciliter l'obtention des stages pour les aider à avancer.
Monsieur Pierre, nous revenons vers vous. Mais Madame Rosalie, plutôt, a parlé tout à l'heure d'une chose de très intéressante, de l'applicabilité de cette loi qui pose problème et que voilà, cette l'égalité n'est pas donnée à tous les enfants, surtout dans les familles. Et elle revient pour dire que cette applicabilité ou bien cette légalité, c'est comme une tradition qui doit commencer à la base, à la source, qui est la famille. Que dites-vous?
Moi, je dirais ceci, l'égalité de genre pose un problème crucial parce que ça commence à la base d'abord. De la famille.
Comme a dit Madame Rosalie.
Les parents doivent éduquer leurs enfants en définissant les tâches respectives aux garçons et à la fille. Ce qu'ils doivent faire vont aller dans le même sens. Il ne faut pas beaucoup brutaliser la fille quand il ne fait pas bon. Il faut harmoniser leur travail, de faire en sorte qu'ils peuvent comprendre que ce qu'ils font, ça va dans leur bien. Et je dirais aussi ceci, qu'il y a aussi des pesanteurs qui font que cette égalité-là ne puisse pas se réaliser. Je m'explique. Par exemple, dans l'arrière-pays, il y a aussi les méconnaissances des textes. Il avait parlé des textes ici. La vulgarisation des textes qui défendent le droit de l'enfant doivent être vulgarisés. La sensibilisation.
Mais par qui?
Par des instances. Certaines instances, par exemple les ONG, l'État, s'ils peuvent sensibiliser la population sur le droit de l'enfant, définir les tâches et donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes filles, parce qu'il y a des présentateurs qui font que ces jeunes filles-là ne peuvent pas aller quitter l'école maternelle jusqu'à arriver à l'université. Vous allez voir le pourcentage des jeunes filles qui quittent le primaire pour arriver à l'université, c'est très minime, c'est très faible. Donc il faut essayer de leur donner les moyens. Dans les arrière-pays, on n'a pas assez de classes pour les contenir. Donner aussi certaines chances à ces filles-là, déscolarisées, on peut les reprendre pour monter un projet, pour leur donner cette possibilité, la chance, de s'épanouir.
D'avoir la même chance que les garçons. Oui, c'est Madame Jennifer, non?
Oui, oui, c'est bien cela.
Oui.
Je dirais que la responsabilité est partagée entre les parents et l'État. Et les parents, pourquoi? Les parents doivent mettre l'accent sur l'éducation des filles au même titre que les garçons. Et ils doivent détruire les pesanteurs sociaux, culturels, à tout niveau. C'est-à-dire que ce que la femme d'hier n'est pas égale à celle d'aujourd'hui. Les mamans qui ont vécu dans leur propre chair, elles doivent pousser les filles à aller à l'école, elles doivent montrer l'importance des études à leurs enfants. Et la répartition équitable des tâches ou des devoirs entre les filles et les garçons au sein de chaque ménage. La sensibilisation de la part de l'État pour que ces filles puissent prendre conscience.
Madame Godens Nirabikali, vous avez expliqué tout à l'heure le but de cette émission, de cette table ronde et aussi des activités que vous menez sur le terrain auprès des acteurs que vous avez cités tout à l'heure, des acteurs nationaux, internationaux. Pour dire que ces activités se résument qu'à Bangui, mais qu'en est-il des villes de province? Vous allez élargir ces activités ou bien comment vous allez faire pour impliquer tout le monde en fait?
Merci Bertie. En fait, nous sommes ici à Radio Ndekeluka et nous espérons que vous êtes écoutés dans tous les coins du pays. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous pour justement partager notre message, pour pouvoir faire arriver notre voix là où nous ne pouvons pas aller physiquement, pour justement commencer cette sensibilisation, ce partage à propos des droits des filles, à propos de l'égalité qui est nécessaire, mais aussi aux besoins de changement des mœurs, des traditions, afin que l'enfant-fille puisse bénéficier des mêmes droits que son frère et garçon, qu'elle puisse se développer et prendre en charge son destin et contribuer aussi au développement du pays. N'oublions pas que les femmes sont 51% de la population centrafricaine.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Dans la table ronde des matins de Keloka, nous échangeons avec nos invités le sujet sur la question qui touche l'égalité et le genre. Monsieur Pierre Ngozo Daoulé, comment faire pour que les jeunes générations se respectent mutuellement et se complètent selon les capacités des uns des autres si nous parlons de l'égalité entre les garçons et les filles?
Je dirais ceci, les jeunes générations auront cette opportunité de bénéficier des nouvelles technologies parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé, il y a la mondialisation, et on peut en profiter pour se communiquer, pour qu'il y ait une égalité. Ils ont cette opportunité-là. Ce que je dirais, les jeunes générations doivent éviter de poser des actes contre le gré de quelqu'un qui provoque chez la victime un préjudice sur la base de son sexe et des différences établies par la société entre l'homme et la femme. Ces actes ont des conséquences néfastes sur la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomie de ces victimes. Donc, les jeunes générations ont cette obligation-là de faire en sorte que les actes qu'ils posent ne entrent pas en contradiction, va pas en contre le gré de quelqu'un. Il faut qu'ils se complètent et je vois que s'ils se comportent normalement, avec les opportunités que leur offrent les nouvelles donnes, qui sont les nouvelles technologies de la communication, et à l'Internet, il y a toute une panoplie de nouvelles technologies. Ils peuvent bien se connecter et proposer des bons actes,
oui,
qui peuvent refléter cette égalité-là entre le garçon et la fille.
C'est Madame Rosalie.
Oui.
Oui, vous voulez rebondir sur la question de Monsieur Pierre.
Pour compléter Monsieur Pierre, je pense que en plus de la nouvelle technologie, mais il faut qu'il y ait cette notion de base. Moi, j'aime bien ces notions de base et ce qui fait déjà nos valeurs. Aujourd'hui, la jeunesse a tendance à oublier complètement nos valeurs et se focaliser beaucoup plus sur l'aspect technologique qui est négatif.
Ou bien de copier ailleurs.
Oui, de copier ailleurs. La majorité aujourd'hui des jeunes, quand vous posez la question « d'où viens-tu ?», cette réponse qui vient de la part de beaucoup des jeunes. Je viens d'ailleurs, je viens de ceci, je suis de telle génération, je suis de telle mode, etc. Vous voyez, à l'époque de nos parents, il y a des bonnes pratiques
qui se font et que ces bonnes pratiques-là contribuent au développement, même au niveau ethnique, même au niveau régional, même au niveau, au niveau des préfectures, etc. Mais aujourd'hui, ces bonnes pratiques ont tendance à disparaître pour laisser la place à des pratiques qui sont négatives. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, pour se faire compléter, je pense d'abord, il faut commencer à banaliser l'esprit de la rivalité. L'esprit de la rivalité, l'esprit de concurrence, et il faut que les gens, et il faut que l'orgueil, il faut que les jeunes se forment. Aujourd'hui, c'est aberrant. Moi, j'ai à ma charge au moins par an, au moins 50 stagiaires à former. Mais je vous assure, c'est très difficile.
Et c'est au niveau de l'AFJC.
Oui, au niveau de l'AFJC. C'est très difficile, souvent. Et on se pose la question, qu'adviendra demain de cette génération? Est-ce qu'on aura des remplaçantes? Est-ce qu'on aura des remplaçants, etc. Et pourtant, la loi sur la parité, on est en train de se battre là-dessus. Donc, c'est des aspects pareils.
Mais vous avez parlé de formation du côté des jeunes, mais il faut aussi la volonté, le courage.
Oui, la volonté, le courage. Avoir, être objectif dans la vie. Il faut avoir de l'objectif, il faut avoir la vision, etc. pour pouvoir vraiment se compléter avec les capacités qu'ils ont.
Madame Jennifer, pensez-vous que les femmes sont-elles autonomes sur le plan socio-économique pour discuter des questions d'héritage, d'accès à la propriété financière, surtout le pouvoir de décider de son avenir, puisque nous parlons ici de l'égalité de genre, nous parlons de l'autonomisation de la femme.
Ah oui, vous parlez de pouvoir de décision.
Oui.
J'avais souligné au départ que si le concept de genre est bien bâti, c'est-à-dire que les parents mettent dans la tête de la fille qu'elle peut faire la même chose que son frère, qu'elle est capable de prendre des décisions, et si elle peut entreprendre les activités de revenus, elle pourra prendre des décisions, voilà. Et donc, si elle est instruite, si elle est allée à l'école, si elle a la base solide, elle peut être autonome. Mais dans le cas contraire, je crois non, ce n'est pas
ça ne sera pas possible. Mais donnons d'abord parole à Madame Rita. Même question pour vous. Vous pensez que les femmes sont vraiment autonomes sur le plan socio-économique pour discuter des questions d'héritage que nous avons soulignées tout à l'heure, d'accès à la propriété financière, surtout de décider de son avenir?
Oui, merci Bertie. Je dirais non, si la femme n'est pas éduquée. Il faut d'abord, la base c'est l'éducation et l'instauration de l'éducation civique à l'école et les valeurs morales. Si la femme est bien acquise avec tout ça, nous demandons aux ONG et aux partenaires et les centres de formation de nous aider à former les filles, les jeunes filles, sur l'autonomisation sociale et financière. Une fille financièrement autonome a plus de chances de garantir son avenir, car elle ne sera pas obligée de se sentir inférieure à l'homme. C'est pour dire que si la femme est bien acquise, c'est l'éducation, si elle est bien instruite et bien assise, elle va être autonome. Mais si elle n'a pas toute cette faculté, la femme ne connaît rien et ne sait rien et ne veulent pas avancer, ne veulent pas se former, elle ne va pas être autonome.
Monsieur Pierre Ngozo Daoulé, avant de revenir à Madame Rita, a parlé de la formation de base et aussi a parlé de l'implication de tout le monde pour encourager ou pousser les jeunes filles, les femmes à se donner, surtout pour pouvoir être autonome. Vous pensez la même ou bien?
L'autonomisation de la femme dépend de ce qu'elle peut produire. Si la femme ne produit rien, elle devient une charge pour le foyer. Elle devient une charge pour le foyer, et ce qui fait qu'il n'a pas le pouvoir de décision. Même au niveau de sa famille, il ne peut pas décider parce que tout vient de l'homme. Mais s'il se démarque de sa situation, même s'il n'est pas instruit, il y a aussi des crédits, en fait seulement des tontines, elle se livre à des activités commerciales, elle fait des efforts.
Se lancer dans des activités génératrices de revenus.
Des agières là, elle va se prendre en charge d'un moment à l'autre, même si son mari, qui a un ton élevé par rapport à lui, arrive à un certain moment,
tout de suite elle devient autonome,
elle peut prendre des décisions, elle peut décider de payer la scolarité de ses enfants, de contribuer à l'épanouissement de son foyer, et puis c'est ça. Et
Madame Rosalie qui voulait rebondir, elle sourit, quelle réponse elle veut donner, elle veut dire le contraire.
Non, en écoutant Monsieur Pierre, oui. Il était très fier de parler. Mais nous n'oublions pas que nous sommes dans un système patriarcal où c'est tout le pouvoir revient à l'homme. Tout le pouvoir, je le dis, revient à l'homme. Et avec ce système, c'est très difficile pour parler de l'autonomisation de la femme aujourd'hui. C'est vrai que le code de la famille est en révision. J'ose espérer que ces aspects ne reviendront pas dans la version révisée du code de la famille. Aujourd'hui, la majorité, vous prenez la famille, la personne qui fait l'équilibre de la famille, c'est la femme. Même si elle a accès à des petits commerces, mais cette petite commerce-là, vous vous rendez compte qu'elle prend presque sa famille en charge. Maintenant, c'est l'acceptation pour dire qu'effectivement, cette femme-là, elle est autonome. C'est ça qui pose problème au jour d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, même si dans les microcrédits ou encore dans l'aspect AGR, etc., mais ces femmes-là se battent. Allez à l'intérieur du pays. La loi aujourd'hui ne donne pas l'accès d'héritage aux femmes. La loi aujourd'hui ne donne pas l'accès des titres fonciers aux femmes. Et pire encore, si c'est des femmes mariées. Si c'est une femme mariée, cette femme mariée n'a pas le droit de titre foncier. Ce titre foncier revient à l'homme. Vous voyez même dans la classification de désignation des héritiers, dans le code de la famille, la femme n'est pas placée au premier plan. Pas du tout. La femme est classée au troisième plan. Et maintenant, si c'est les enfants filles, n'en parlons même pas. Et donc, aujourd'hui, cette question pose certain nombre de problèmes. Nous pensons effectivement qu'avec la révision de code de la famille, il y aura des aspects effectivement qui vont prendre en compte la réalité que nous vivons aujourd'hui avec l'évolution de notre société et avec le rôle, la place que la femme joue aujourd'hui dans nos développements, même si sur les questions des règlements, des conflits, etc., ça pourra...
Vous avez brossé l'idée, restant toujours avec... Oui, madame, c'est madame Jennifer.
Ah oui.
Oui.
Oui, je voulais rebondir un peu.
Oui.
Parce que si nous parlons d'héritage, l'héritage et l'accès à la propriété foncière, c'est trop vaste. D'abord, au niveau familial, l'héritage, souvent, on donne aux garçons que les filles. La fille se voit déjà...
C'est comme a dit
Rosalie. La fille se voit inférieure par rapport à son frère dès bas âge. Et maintenant, au sein de couple, vous pouvez passer du temps avec votre concubin ou conjoint. Alors, au finish, si celui-ci n'est pas en vie, on dit que non, mais vous vivez seulement en concubinage notoire avec ce dernier. Alors, pourtant, la femme a aussi investi au moment de leur vie de concubinage, là. Mais on ne reconnaît pas ça, la femme. C'est comme a dit Rosalie, nous vivons dans une société patriarcale. Alors, il faut revoir tout cela afin que nous, les femmes, nous puissions avoir notre place concernant l'héritage pour que nous ayons aussi...
Oui, c'était Madame Rita qui voulait aussi rebondir.
Oui, oui. Je voulais dire ceci.
Oui.
Il faut que l'État s'implique aussi pour que la femme puisse avoir cette autonomie. Parce que bien que la femme vit avec un homme, contribue aussi dans son foyer, mais lorsque l'homme n'est pas là, c'est... Tout ce qui est dans la maison revient. Les parents de monsieur
encaissé,
voilà, revient pour récupérer tout ça. Et deux fois, il y a des femmes qui vivent avec son concubin, 10 ans, 15 ans, qui ne sont pas mariées. Et là, maintenant, ça pose problème. Lorsque le monsieur n'est pas là, la femme n'a pas le droit.
Est-ce que c'est parce que ces femmes ne connaissent pas leurs droits?
Oui, c'est parce que ils disent que c'est parce que la femme n'est pas mariée légalement à l'homme, à son partenaire. Or, c'est ça qui pose problème. Et les hommes, maintenant, ne veulent pas s'engager pour aller régulariser tout ça sur le plan juridique. Je parle du mariage. Or, que si l'État peut aider à ce que on puisse trouver les textes pour qu'une femme qui vit avec un homme pendant plus de 10 ans, 15 ans, doive être peut-être protégée quelque part au cas où...
Juridiquement. Oui.
Et comme ça, la femme peut avoir une décision peut-être dans la famille au cas où. Et ce qui pose problème, ce sont les textes.
Bon, donnons d'abord la parole à Madame Jennifer, non? Mais ce sont les femmes qui prennent parole ici. Hein? Monsieur Pierre, nous allons revenir, vous allez reprendre plus tard.
Merci.
Écoutons d'abord Madame Jennifer.
Je dis, ces textes existent, mais c'est problème de vulgarisation de ces textes à travers la sensibilisation. L'État doit pouvoir mettre les moyens afin que les femmes soient sensibilisées sur leurs droits. Ces textes existent déjà. Et donc, c'est à nous de vulgariser, à l'État d'appuyer et les...
Aussi aux femmes, de prendre le devant.
D'en parler aux autres. Et voilà, il y a ceci, il y a cela. Et qu'elles ne baissent pas le bras. Il y a même Lumière qui est là pour éclairer les femmes là-dessus. Elles peuvent même, à travers Lumière, on peut sensibiliser les femmes sur les questions de droits. Il y a AFJC qui est là, peut faire cette sensibilisation de masse pour que les femmes...
C'est ce que vous faites aussi dans votre entité ou bien?
Oui, c'est cela que je fais.
Vous êtes des porteurs de TNU, comme
oui,
ça se passe aussi.
Oui, c'est ce que nous faisons.
Dans la gendarmerie nationale, police.
Oui, une fois quand nous étions à Lumière, on fait que sensibiliser les femmes qui arrivent, on descend dans les écoles, mais il faut
vulgariser
encore davantage pour toucher toute
que voulez-vous touche. Que voulez-vous dire, M. Pierre Ngozo d'Amblé?
Moi, je veux intervenir par rapport à ce qu'a dit
Madame Rosalie.
Oui. Il y a tellement de textes qui, vu leur la non-applicabilité, ces textes-là tombent en désuétude. Vous voyez? Donc, s'il y avait, par exemple, un organe qui est chargée de suivi, de vulgariser. Parce qu'on ne peut pas parler seulement au niveau de la capitale. Moi, je suis à 350 km à Grimari. La femme de Grimari, qu'est-ce qu'il comprend dans le texte? Donc, s'il y avait peut-être un organe qui peut sensibiliser la femme sur ses droits, on ne pourrait pas arriver à ce stade-là. Peut-être qu'il y a un observatoire des femmes qui est chargé comme leur porte-parole pour leur montrer leurs droits. La méconnaissance des textes aussi font que nos femmes ont pâti parce que l'homme se croit toujours supérieur à la femme et l'homme aussi va inculquer sa suprématie là par rapport à son garçon, il va le privilégier par rapport à la fille. Et ce processus-là, au lieu qu'on trouve une solution définitive, ça va s'élargir,
ça va poser problème. Nous parlons de l'égalité, nous parlons de l'autonomisation, en fait, nous parlons de tout. Madame Rosalie, revenons vers vous. Qu'en est-il de choix d'une carrière professionnelle et quand et avec qui une fille doit se marier?
Déjà, le code de la famille qui est en révision, je le souligne ici que l'aspect concubinage, c'est là même une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, ce code est en révision avec l'appui des partenaires. Parce qu'on s'est rendu compte que le code de la famille ne parle beaucoup plus que pour les mariés. Et entre-temps, ici en RCA, le régime beaucoup plus, c'est le concubinage notoire. Et donc, cet aspect est aujourd'hui fait vraiment débat. Et c'est ça même qui pousse à la révision du code de la famille. Bref, sur la question de carrière, question de choix de carrière, question de choix à qui doit se marier. Le code de la famille dit déjà pour un début dans son article, je pense article 209, qui stipule que nul ne peut contracter le mariage s'il n'a 18 ans révolus. 18 ans révolus, c'est-à-dire que aujourd'hui, si moi je suis né un certain 3 mars à 9h ou encore à 12h, si c'est pas encore 12h, j'ai pas encore 18 ans. C'est-à-dire que c'est à l'heure pile où je suis née, c'est là où j'ai 18 ans. Là, c'est déjà le premier aspect. Dans le code de la famille qui est en révision, il est dit les couples qui contractent le mariage, la femme a le choix de choisir d'ouvrir un compte, d'avoir ses activités professionnelles, de choisir d'informer son mari pour le lieu de son travail, etc., etc. On parlait ici de la méconnaissance des textes, on parlait ici de l'ignorance, on parlait ici de taux d'analphabétisme qui est très élevé, on parlait de la question de vulgarisation. C'est tous ces aspects font aujourd'hui que même les couples mariés ont beaucoup cette méconnaissance-là. Vous allez vous rendre compte, vous prenez sur 10 couples mariés, 8 couples mariés ont des comptes communs. Il y a point d'interrogation. C'est-à-dire que beaucoup ne comprennent pas pourquoi on est en compte en commun et quels sont mes droits en tant que mariée femme, et etc. Et donc aujourd'hui, il y a ce cadre normatif qui existe. Maintenant, à côté de ce cadre normatif, il faut maintenant sensibiliser. C'est là où devient maintenant notre rôle en tant que société civile. Parce que le rôle de la société civile, c'est de pouvoir appuyer l'effort du gouvernement à travers et de porter la voix de la société vers le haut, de prendre l'information du haut, de pouvoir descendre vers le bas. Et c'est le travail que nous le faisons. Malheureusement, à Grimari, c'était un projet et ce projet a pris fin. On travaille à l'intérieur du pays, mais il y a un sérieux problème, effectivement. Question de vulgarisation, question d'information, on le fait, on sensibilise, on communique à la population. Mais ce défi demeure et ça reste.
Madame Jennifer, c'est vous qui voulez agir ou bien?
Au fait, je voulais parler par rapport au choix de carrière.
Oui.
Je dis, choix de carrière dépend du niveau d'instruction de la femme. Si la femme n'est pas instruite, alors elle va carrière professionnelle et aussi de sa capacité. Il faudrait montrer à la femme qu'elle est capable de faire quelque chose, qu'elle est capable, qu'elle est à la hauteur. Mais si elle ne connaît pas ses limites et ses capacités, elle ne peut pas du coup faire le choix de carrière.
Madame Rita, des fois, certaines femmes sont instruites, sont formées, mais si elles ne se manifestent pas, elles ne donnent pas ce courage de se démarquer, cela ne pose pas un problème pour la société, pour elle-même?
Oui, ça pose problème. Ça pose problème parce que la femme n'a pas de volonté. Parce qu'il faut d'abord toi-même, il faut avoir confiance en soi. Et cette confiance va te pousser et
peut-être à faire quelque chose de bon.
À faire quelque chose de bon et à avancer dans tes fonctions.
Oui, monsieur Pierre.
Sur le plan de la carrière professionnelle, je dirais ceci. Le marché de l'emploi n'a pas de sentiment. Le marché de l'emploi n'a pas de sentiment. C'est que ça requiert certaines conditions. Si tu n'as pas la compétence, bien que tu peux avoir des diplômes, mais si tu ne te manifestes pas comme vous venez de le dire, vous n'êtes pas apte à promouvoir, à faire la valeur de votre connaissance, mais le marché de l'emploi va dire que non, on va prendre le critère égalité, on va... Non. C'est pas ça. Même si on ne peut pas se lever d'un matin pour dire que non, les 35% là, on doit combler. Non, ce n'est pas possible. Il y a certaines conditions. Il faut que la femme requiert ces compétences, cette qualité-là. Mm-hmm. Parce que le marché de l'emploi n'a pas de sentiment. Combien de femmes, même si à l'Assemblée nationale, si on peut avoir deux femmes, on peut les prendre. On ne peut pas prendre un décret pour dire que, comme on a besoin, on a dit c'est 30% ou 40%, on va nommer les députés. Non. Mais si par exemple, une femme qui a cette capacité-là, qui a cette rhétorique de parler à la population lui fait confiance, si elle a ses aptitudes dans le travail, et s'il est mis de côté, c'est de l'injustice. Mais s'il y a cette capacité-là, on doit l'employer.
Vous avez écouté les femmes. Monsieur Père a dit, sur le marché d'emploi, il faut des femmes capables, des femmes expérimentées.
Bertie, moi, ça me fait rire un peu parce que je vois Monsieur Pierre en train de parler. Ça, c'est le caractère masculin qui sort de lui. Ça, vraiment, c'est le patriarcal qui sort de lui. Mais qui doit favoriser aujourd'hui ce cadre-là aux femmes pour qu'on puisse avoir les femmes compétentes? Je donne un exemple simple. Je parle sur le contrôle des porteurs de tenue. Moi, je connais une dame qui a été formée en armes lourdes. Elle a été formée. Mais aujourd'hui, elle a été formée au Nigeria. Elle est rentrée au pays où on l'a mis. Elle est devenue protocole. Là, on va parler de compétences. Là, on va parler de la compétition. Là, on va parler de... Non, moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que parce qu'il y a la parité et moi, je suis femme, il faut me prendre. Non, je mérite d'être femme, je mérite d'être prise à cette fonction. Moi, je suis de cette génération-là. Et on se bat pour ça. Mais favoriser le cadre, en tant que mari, par exemple, dans la maison, qu'est-ce que vous favorisez pour que votre femme puisse être instruite à ce niveau-là, même si elle a le niveau zéro? Ça, c'est un exemple.
Oui, Madame Jennifer, Madame Rita, et comme ça, on revient à Madame Godos aussi, qui est en train de nous écouter.
Je vais compléter. L'égalité, c'est un processus. Hein. Comme je viens de dire, on ne peut pas se lever demain matin pour dire que c'est ça, ça, ça. Donc, ça se construit. On va se fixer un objectif et ça dépend d'un délai qu'on va atteindre cet objectif-là. Mettre d'emblée comme ça, il faut mettre les jalons. Construire, c'est comme un arbre. Il faut l'arroser, il faut chercher. Hein. On parlait ici du tout
d'alphabétisme. Il faut préparer les choses.
Il faut préparer.
Madame Jennifer.
Peut-être en 2030, en 2040, on sera à ce niveau-là, mais pas à l'essentiel.
2030, 2040,
ça, moi, je dirais ceci. D'abord, il y a les pesanteurs sociaux sur les femmes. Oui. Vous savez, au départ, on dit que les femmes ne sont pas destinées pour les études, pour le travail, etc. L'escolarité de la fille, les parents ont mis ça sous croix. Alors, ce qui fait que les garçons sont partis avant nous. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train de détruire ces pesanteurs sociaux afin que nous, les femmes, nous puissions prendre notre destinée en main. Disons que les femmes, il n'y a pas de compétences, je dirais non. Parce qu'il y a ce que les garçons font et que nous aussi, nous le faisons. Voilà, il y a des femmes qui ont des diplômes au même titre que les garçons. Mais nous sommes sous-estimés.
On dit encourager tout le monde.
Il faut encourager tout le monde. Il y a des femmes
être sur le même pied d'égalité.
Oui.
C'est ce que vous voulez dire, Madame Rita.
Oui, je voulais compléter. Il y a des femmes capables. Mais il faut donner l'opportunité à la femme
d'occuper
des grands postes et mettre en valeur
Faire
le même travail et mettre en valeur ce que elle sait faire. Mais deux fois, les hommes ne veulent pas que les femmes puissent avancer. Quand une femme, vous savez que la femme c'est une sexe faible et la femme deux fois elle est timide. Mais c'est aux hommes de nous pousser, d'aider ces femmes à avancer, mais c'est le contraire. C'est tout un tas de contraires. Parce que les hommes ne nous donnent pas l'opportunité d'avancer. Mais ils nous donnent seulement l'opportunité de nous rabaisser, de nous frustrer pour qu'on ne puisse pas avancer.
Les femmes sont toujours placées à la dernière ligne. Et ça pose problème. Madame Godens, quels sont les besoins qui restent et les défis qui vous attendent pour ces activités en partenariat avec les institutions, les acteurs nationaux et internationaux que vous avez soulignés tout à l'heure?
Merci Bertie. En écoutant justement nos collaborateurs ici, on devient...
Surtout les femmes.
Surtout les femmes. Il y a beaucoup d'énergie et c'est un enthousiasme de pouvoir travailler avec vraiment les gens qui sont bien décidés et qui sont prêts aussi à relever les défis existants. Le travail, il y a beaucoup à faire. Le chemin est long, mais ce n'est pas long parce que nous avons l'agenda 2030 et qui vise l'égalité justement des femmes, des hommes et des femmes. Et pour arriver là, il ne reste que 8 ans. Donc, nous avons beaucoup à faire pendant 8 ans. Et pour la société centrafricaine, il y a les lois, bien sûr. sur la parité. Mais n'oublions pas aussi qu'avant de traduire les lois en pratique, il y a aussi la pratique sociale. Dans nos sociétés, dans vos sociétés, et les gens, et si on, nous avons besoin de communiquer à partir de la base déjà. On a parlé de l'intégration de la femme dans la carrière professionnelle. Si elle n'a pas été à l'école, elle ne peut même pas penser à une carrière professionnelle. Elle ne peut pas arriver là. Mais alors, comment faire pour qu'elle accède au moins à l'éducation de base? C'est aux parents qui ont besoin de la sensibilisation. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est trop tard. Il y a toujours du temps, mais le travail doit commencer maintenant. Si les femmes vont même pouvoir rêver d'égalité autour de l'année 2030. Merci.
Rien n'est jamais tard. Les femmes ont encore cette possibilité, cette chance de se battre. Pour terminer notre émission du Internaute, nous avons toujours nos invités qui vont donner leur point de vue avant de boucler cette émission avec EIAM RCA. Madame Rosalie, quelles propositions faites-vous en termes de stratégie pour encourager les femmes, surtout les jeunes filles, à s'affirmer pour la semaine, surtout la semaine qui leur est dédiée tous les ans?
Je pense que la sensibilisation aujourd'hui, la stratégie à mettre en place déjà, commençant par la sensibilisation à la base, conscientiser et la famille et les filles, les jeunes filles sur la question, sur leur rôle, sur leur devoir, sur leur avenir, et de sensibiliser les parents à mettre de l'équilibre dans l'éducation des enfants, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Du côté de l'État, que l'État met en place des cadres viables pour pouvoir faciliter l'applicabilité de tout ce qui est chez nous comme texte, etc. Du côté des partenaires, je pense que aujourd'hui l'heure est pour nous et pour eux de pouvoir mettre la main à la pâte réelle et vraie pour appuyer tout ce qui est développement, pour appuyer tout ce qui est le rôle et la place de la femme.
En attendant, Madame Rita, que proposez-vous surtout aux femmes, aux filles, pour qu'elles puissent se démarquer dans la société, la génération d'aujourd'hui?
Nous demandons à la femme d'abord d'avoir confiance en soi et d'étudier. Il n'est jamais tard pour étudier et faire des formations pour acquérir tous les
pour avoir toutes les connaissances,
être toutes prête, les connaissances,
oui,
être prête,
les plans.
Voilà, pour avoir toutes les connaissances et être prête à rentrer en jeu dans la société au niveau de chaque service département pour qu'elles puissent marquer leur passage, marquer et montrer aux hommes que la femme aussi est capable. Parce qu'aujourd'hui, nous les porteurs de tenue, ce que les hommes font, nous le font aussi. Mais il faut que les 50-50 que nous demandons, c'est on ne peut pas rêver seul. Il faut que les hommes soient là. Les hommes doivent nous aider dans nos différents services, de nous appuyer à avancer. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est cette demande que je suis en train de plaider au plaid des hommes. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous sommes avec vous. Et c'est à vous de nous aider, de nous pousser à avancer dans tout ce que nous faisons.
Êtes-vous satisfait ou satisfaite surtout de tout ce que vous faites en partenariat avec EIAM RCA?
Oui, oui, je suis très satisfaite avec tout ce que nous faisons avec l'EIAM RCA.
Madame Jennifer?
Oui, je dirais aux filles et aux femmes de ne pas baisser les bras, aux hommes qui osent gagnent toujours, de se faire former, d'avoir la confiance en elles parce que nous pouvons atteindre l'objectif que nous sommes toujours derrière. Alors, se faire former, se montrer capable et être à la hauteur, nous y arriverons. Et au gouvernement de promouvoir toujours le politique du genre, afin que nous ayons nos places dans des prises de décision, dans des différents postes.
Dans la gendarmerie nationale, les femmes sont toujours promues, non?
Oui, bien cela. Ça commence
à... Elles des grands postes aussi.
Non, ça commence petit à petit, mais je crois que ça ira. Mais aux femmes de s'affirmer, de s'affirmer dans leurs tâches et de ne pas baisser les bras. Je vous remercie.
Moi, je dirais que les femmes doivent beaucoup faire des efforts en matière d'éducation, parce que l'éducation, c'est la base, la formation. Ils doivent acquérir des connaissances pour s'égaliser avec les hommes, hein, parce que c'est pas, on va pas leur faire cadeau, parce que c'est un jeu qu'on va mener ensemble. Mais ce que nous souhaitons, c'est que si la formation, l'éducation, si une femme est bien formée, est jeune, une fille est bien formée, s'il a la compétence, il va trouver de l'emploi, il sera respecté. Je crois que les ONG, nos partenaires sont prêts à nous aider dans ce sens-là, à promouvoir l'éducation, à promouvoir la formation, à beaucoup privilégier les filles pour les amener à être autonomes et au même niveau que les hommes et de profiter aussi de certaines opportunités. Je crois qu'à la longue, cette égalité-là serait une réalité.
Madame Godens, les difficultés ne manquent pas. Il y a beaucoup de choses restent, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Y a-t-il de satisfaction dans le travail que vous faites en partenariat avec les FSI en République centrafricaine? Nous parlons des forces de sécurité intérieure, y compris la société civile. Y a-t-il la satisfaction? Il y a encore des besoins, vous avez souligné tout à l'heure.
Merci Bertie. Oui, nous sommes en tant que membre de la mission et de conseil de l'Union européenne. Et la mission est satisfaite avec la collaboration avec les forces de sécurité intérieure, la gendarmerie, la police centrafricaine, mais aussi les membres de la société civile. Il y a une société civile vibrante en Centrafrique et ça, c'est une grande chance parce que c'est pas seulement les forces de sécurité. Pour bâtir une sécurité humaine, il faut bien sûr les forces de sécurité organisées, mais aussi compter sur chaque citoyen. Et pour atteindre chaque citoyen dans son coin, et les forces de sécurité et la société civile se complètent. Là, sur le terrain ici, je pense que nous avons les instruments nécessaires en place et nous sommes contents de notre rôle d'accompagnement et nous sommes prêts toujours à accompagner le relèvement de la République centrafricaine vers son développement durable. Mais aussi avec l'égalité de genre. Merci.
Et c'est la fin de cette table ronde sur Radio Ndekeluka, une émission consacrée à l'égalité de genre en vue de l'autonomisation des femmes en République centrafricaine à l'occasion de la semaine dédiée à la femme. Cette table ronde est réalisée en partenariat avec EUIM-RCA pour mettre la lumière sur ces actions sur le terrain au Centrafrique. Autour de cette table sur Radio Ndekeluka aujourd'hui, nous avons reçu Madame Godens Nirabikali, conseillère genre à EUIM-RCA. Nous avons lieutenant Jennifer Willidan, point focal genre à la gendarmerie nationale. Nous avons commissaire de police Rita Pascal Eurydis Sakaba, directrice de police de l'air et des frontières. Nous avons le commissaire de police Pierre Ngozo Daoulé, chef de service au commissariat sécurité publique de Agrimari. Et enfin, Madame Rosalie Kobobet, elle est secrétaire générale à l'Association des femmes juristes de Centrafrique, AFJC. C'est fini, auditeurs de 100.9 FM, à la réalisation de cette table ronde. C'était moi, Bercy Ghislaine Amazoda. La partie technique est assurée par Anne Alix Pounemati. Le rendez-vous est pris pour les jours à venir sur Radio Ndekeluka pour une autre thématique avec d'autres invités. Et surtout, bonne suite.